pour poursuivre notre débat, j'accueille Maître Éric Decommont. Bonjour Maître.
Bonjour à tous.
Vous êtes un spécialiste de la défense des droits des automobilistes. Et puis avec nous également jusqu'à 14h, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour.
Bonjour.
Tête de liste de Boule à France dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour les élections régionales de 2015. Je me tourne d'abord vers vous, Maître Éric Decommont. Quand on écoute le témoignage de Jacques, évidemment, on est sur les radars pompe à fric, ça on le savait déjà, mais avec cette nouvelle génération de radars qui arrive, ceux qui flashent dans les deux sens, deux choses à vous faire remarquer, Maître. D'abord, j'ai envie de vous dire, ça va mieux côté sécurité routière, puisque désormais on pourra flasher le visage du conducteur, et je crois que vous le demandiez depuis plusieurs années, ce qui permettra de sanctionner les mauvais conducteurs. En revanche, ces radars ont l'air de flasher à la vitesse de la lumière.
Je ne sais pas s'ils flashent à la vitesse de la lumière, il est clair qu'ils sont éminemment rentables, et ça nous ramène d'ailleurs au témoignage de l'auditeur précédent, à savoir... On peut ne pas être contre les radars en France. On peut par contre s'interroger sur la façon dont ils sont utilisés, c'est-à-dire est-ce qu'on les met à des endroits dangereux ou est-ce qu'on les met à des endroits juteux. Vous avez des réponses très claires à ce sujet-là, je crois que c'est à peu près clair maintenant pour la quasi-totalité des Français, comme par exemple le fait que sur les autoroutes qui sont les zones les moins accidentogènes, bien entendu, de tout le réseau sur lesquelles on se tue 100 fois moins que sur les autres routes, on retrouve un nombre très conséquent de radars qui n'a rien à voir avec la proportion de la mortalité sur les autoroutes. Ça dit bien ce que ça veut dire. Alors là, vous me dites, il y a des appareils qui désormais vont pouvoir flasher de l'avant. Donc, première remarque, on a le sentiment que les pouvoirs publics veulent donner le change. C'est-à-dire que, à force d'utiliser 100% de radars de feu rouge qui flashent par l'arrière et 80 ou 90% de radars vitesse qui flashent par l'arrière, c'est clair qu'ils donnaient le sentiment évident qu'ils cherchaient à faire de l'argent et non pas à identifier, pour cause puisqu'ils ne peuvent pas, les conducteurs et à sanctionner d'éventuels comportements dangereux, sachant, je vous le rappelle à cette occasion et à tous les auditeurs de Sud Radio, que de toute façon, un propriétaire, le titulaire d'une carte grise, par exemple quand une photo est prise dedans, n'a jamais obligation de dénoncer le conducteur, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un qui connaît ou que ce soit quelqu'un qui ne connaissait pas. Donc par définition, aucune obligation de délation, je tiens à le rappeler, parce que parfois il y a des gens qui disent le contraire, ce ne peut être que mensonge ou incompétence. Maintenant, les photos prises de face, effectivement, ça relève d'une autre démarche, c'est-à-dire, on cherche à identifier le conducteur, ça va plus dans le sens de la logique sécuritaire que de la logique fiscale, la logique rentière. Au demeurant, je n'en demeure pas moins extrêmement réservé sur la primauté qui est donnée depuis une dizaine, une quinzaine d'années en France aux contrôles automatisés, même avec des photos de face, par rapport au contrôle avec interception. Pourquoi ? Parce que le contrôle automatisé, c'est une recherche de productivité, de rentabilité. Un appareil qui flashe de dos ou de face, il marche 24h sur 24, il n'est pas syndiqué, il ne fait pas 35 heures, il n'a pas d'état d'âme, et quand il est parfois en panne, bien entendu, on le répare très rapidement, c'est trop rentable. Et ce faisant, permettez-moi de vous dire qu'on fait malgré tout, encore même avec des photos de face, le choix de la rentabilité sur le choix de l'identification du conducteur. Pourquoi ? Je vais vous donner une raison très simple. Si vous circulez dans un véhicule qui n'est pas à votre nom, parce que c'est un hasard, vous n'êtes pas dans une voiture à votre nom, vous êtes dans une voiture de société ou la voiture que vous a prêté un ami ou un parent, ou si vous avez fait le choix, parce que vous voulez avoir la paix par rapport au radar raquette et que vous voulez être tranquille, de circuler dans un véhicule qui est le vôtre, mais qui a été mis au nom d'un parent, d'un cousin ou d'un ami, de toute façon, les photos de face ne vous dérangeront jamais, puisque la photo de face, elle sera envoyée, enfin, elle ne sera pas envoyée directement, mais disons que le PV sera envoyé au titulaire de la carte grise. Le titulaire de la carte grise, il dira, donnez-moi la photo, et il dira, vous voyez sur la photo, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc, premièrement, je ne risque aucune sanction pénale, c'est la loi. Deuxièmement, je n'ai pas forcément envie de dénoncer ce qui s'est fait, c'est la loi, j'ai le droit de ne pas dénoncer. Troisièmement, en me donnant cette photo, vous venez de m'apporter la garantie que je n'aurai même pas à payer une amende, puisque j'ai la preuve, je vous rapporte la preuve que ce n'était pas moi au volant, grâce à ce que vous venez de me donner comme photo. C'est vous qui venez de me permettre d'éviter de payer l'amende fiscale, l'amende civile, que payent tous les propriétaires de cartes grises, de véhicules, dont la carte grise donc est à leur nom, et qui ont été flashés de dessus et qui n'ont pas d'alibi. Donc vous voyez, quelque part, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sont organisés, on va dire que là, ça va être par rapport à ceux qui se défendent, mais qui se pré-organisent, ils n'auront n'ont aucun risque d'avoir des sanctions pénales grâce au radar automatique prenant de face. Et que donc, même à la limite, l'État va encore moins gagner un peu, hein, va gagner un peu moins d'argent. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée qu'ils ont eue pour Bercy. Par contre, par rapport à une interception avec un gendarme, avec un policier en chair et en os, en général, quelqu'un qui est plus intelligent qu'une machine et qui est capable d'apprécier aussi les conditions dans lesquelles une infraction a été commise, relativiser la gravité des faits, notamment quand on est dans la ligne droite, on voit la souris à 3 km, comme disait tout à l'heure cette auditeur. Eh bien, il n'y aura toujours pas d'interception, d'identification et éventuellement de sanction des comportements dangereux, notamment en étant hors d'état de circuler pendant quelques mois par une suspension de permis de conduire, quelqu'un qui ferait vraiment n'importe quoi. Enfin, bref, c'est un petit peu différent ces radars avec prise de photos de face. Ça reste de toute façon un choix politique. On fait du chiffre, on fait du fric et on renonce à identifier ceux qui commettent des infractions et qui, s'organisant ou n'ayant même pas besoin de s'organiser, sont à l'abri de toute forme de sanctions pénales. Voilà ce qu'il faut penser de ce système.
Belle démonstration, belle argumentation. Maître de Comment, je me tourne vers Jean-Philippe Tanguy, qui je pense doit pas être très loin de votre position. Est-ce que ces nouveaux radars qui flashent dans les deux sens, Jean-Philippe Tanguy, on est toujours sur le choix de la rentabilité et pas de la responsabilité?
Bah oui, tout à fait, parce que j'ai envie de vous dire, un radar qui flash autant, finalement, c'est pas un radar qui fonctionne. Le but du radar, c'est pas d'arrêter, c'est pas de mettre des amendes aux gens, c'est que les gens ralentissent. Bon, voilà, le but du radar, c'est que ça ralentisse. Si un radar est placé de telle sorte qu'il y a 2500 flashs pour ce site, il y a un problème. C'est-à-dire que soit les automobilistes savent pas qu'il faut ralentir, soit que le radar est placé à un endroit qui est vraiment un piège. Moi, je pense que surtout qu'en l'occurrence, les radars chantiers ont été créés pourquoi ? Parce que les chantiers sont des lieux particulièrement dangereux.
Alors, les radars chantiers, ça a du sens, parce que c'est pour protéger ce qu'on appelle les hommes en jaune, hein, les ouvriers qui travaillent sur ces chantiers.
Tout à fait. Mais ce que je vous dis là, c'est que s'il y a 2500 flashs dans la journée, c'est qu'a priori, les conditions de sécurité ne sont pas assurées, puisque personne ne décélère. Voilà. Donc là, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir ? On croit que le radar, ça suffit et que ça va faire changer les comportements ? Visiblement, non. Et visiblement, ce cas montre que quand vous avez 2500 flashs ou même 900 sur le site de Rennes, il y a un gros problème. Ça ne marche pas. Voilà. Ça ne suffit pas. Et depuis 10 ans, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Maître Comon, je suis d'accord avec tout, donc je vais compléter. Le problème qu'on a, c'est que cette année, on a une hausse des morts. Voilà. C'est que le tout radar commence à montrer ses limites. Voilà. Et à un moment, le sujet, c'est pas que le. Effectivement, il y a des comportements scandaleux et on est tous d'accord pour lutter contre. Visiblement, ça ne marche plus. Et le magazine Auto Plus a fait une étude qui n'a pas été contestée par le ministère de l'Intérieur, qui dit qu'il y a 52% des radars qui sont placés à des endroits qui sont inutiles. Voilà, ça sert à rien, des endroits où il y a peu ou voire pas du tout.
52%.
52%. Voilà.
Bernard Ladevez, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes directeur de l'association de prévention routière. Merci de faire cette émission avec nous sur Sud Radio. Ce que dit Jean-Philippe Tanguy n'est pas idiot. Si effectivement, voilà, vous avez 2500 flashs sur le même radar, il y a peut-être pas que les automobilistes qui ont un problème. Bernard Ladevez, je voudrais vous demander une chose, parce que ces radars, pour l'instant, sont positionnés sur des zones chantiers. On est amené à les multiplier. Hein. Je crois qu'il va y en avoir 150 d'ici à 2016, donc pas forcément que sur des zones chantiers. Ces radars sont ce qu'on appelle des radars tournants, de zones en zone, comment être sûr, et on en a déjà parlé les années précédentes, comment être sûr qu'ils sont bien réglés, qui les installe ?
Ah ben écoutez, ça je ne suis pas un spécialiste pour répondre à cette question. Hein. J'ai cru comprendre que ces radars dont étaient installés étaient mobiles, donc effectivement on peut les déplacer, mais il y a des panneaux pour les prévenir, hein. Et apparemment les automobilistes voient les panneaux mais ne voient pas le radar. Donc c'est pour ça que beaucoup ces derniers temps ont été piégés par ce type de radar. Ceci dit, bon, ce type de radar c'est un moyen supplémentaire si vous voulez pour faire baisser l'accidentalité puisqu'elle est en hausse depuis 2014. Mais si on fait, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, mais si on voit l'accidentologie depuis 1972 avec 17 000 morts où on a touché pour la première fois la vitesse en mettant les 60 km/h en ville obligatoire, où il y a eu une chute vertigineuse du nombre de morts, et on a recommencé en 2002 avec la chaîne contrôle sanction dans les premiers radars au bord des routes, et là on a vu aussi que le nombre de morts avait chuté énormément.
Oui, alors, Bernard Ladevez, comme l'a dit Jean-Philippe Tanguy, effectivement les chiffres de la sécurité routière depuis un an et demi commencent à montrer que la politique du tout radar ne porte plus ses fruits. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Ben, écoute, écoutez, il y a un certain nombre, il y a eu 26 mesures qui sont sorties récemment. Hein. C'est une mesure parmi tant d'autres et supplémentaire qui peut certainement peut-être améliorer la sécurité au bord des routes. C'est le but recherché. Quand on pense qu'il y a 9 morts tous les jours sur les routes en France, bon, c'est encore considérable. Et si on veut arriver en 2020 à de nouveau diviser le nombre de morts par deux, je crois que tous les moyens sont bons quand même, tout en respectant bien sûr les conducteurs. Hein. Il n'y a pas que le tout répressif, il y a aussi la prévention qui rentre en ligne de compte. Mais enfin, je crois qu'il faut tout faire quand même pour enrayer ce fléau.
Maître de Caumont, je vais vous poser à vous cette question parce que j'espère que vous avez la réponse. Les radars tournants de zone en zone, comment être sûr qu'ils sont bien réglés? Qui les installe? Parce que 2500 flashs en une seule journée, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça va être un sacré jackpot pour l'État.
Mais écoutez, il faut juste croire en la compétence et en le respect des normes techniques d'installation de la part des policiers ou des gendarmes. Parce que vous avez tout à fait raison, à chaque fois qu'on positionne un radar, si on ne respecte pas strictement les règles assez complexes de mise en place de l'appareil, on engage un contrôle dont les résultats vont être faux. Ça fait 30 ans que je me bats aux côtés des automobilistes à ce sujet, et des centaines de fois, j'ai pu démontrer que ce que l'on reprochait à un automobiliste était juste totalement faux, parce que la vitesse était faussée, parce que le radar avait été mal positionné, mal utilisé, et vous en aviez parfois des exemples caricaturaux où on reprochait à une voiture une vitesse qui était supérieure à ses performances. Donc là, on avait la preuve formelle que le radar avait dit n'importe quoi. Donc les radars, les cinémomètres, c'est le nom exact, sont des appareils de haute technicité, a priori avec une technologie satisfaisante. Ils ne sont pas forcément infaillibles, il leur arrive de dysfonctionner, de tomber en panne, mais on va dire que globalement, ça marche plutôt bien, ce sont plutôt des appareils de bonne technologie et de bonne fiabilité, mais il est clair qu'un appareil qui est boulonné sur le bord de la route, à demeure en permanence, comme on en a installé et qu'on continue à en installer d'ailleurs toutes les semaines sur le bord des routes depuis 2003, cet appareil-là, il est positionné, il est fixé, il est vérifié par un service agréé, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de danger que l'appareil ne soit pas en mesure de donner de bonnes mesures, justement, de bien calculer la vitesse. Par contre, quand vous prenez un appareil et que vous le positionnez sur le bord d'un chantier, si vous ne le positionnez pas correctement, vous êtes certain qu'il va y avoir à l'arrivée une mesure faussée et donc une injustice. Et donc, et ça, c'est ce que personnellement je supporte le moins et que je trouve le plus odieux, quelqu'un qui est respectueux de la réglementation, qui roule en respectant la limitation de vitesse et qui se voit reprocher une infraction qu'il n'a pas commise. Et je peux vous dire d'expérience en tant qu'avocat depuis 30 ans que je plaide ça, que c'est excessivement difficile, puisque les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire ce que ça veut dire, de démontrer la preuve contraire, de démontrer que vous n'avez pas dépassé la limitation de vitesse, sauf si vous avez plusieurs témoins initiés dans la voiture ou des choses comme ça. Donc c'est effectivement un très gros danger l'utilisation de ces appareils détestables et qui peuvent effectivement, s'ils sont mal utilisés, mal placés à la limite s'ils se mettent à dysfonctionner à cause de ça, c'est effectivement un très gros risque d'injustice. J'espère que policiers et gendarmes sont excessivement méticuleux et précis quand ils positionnent cet appareil et qu'ils prennent le temps de faire les choses bien.
Faut pas nous prendre pour des pigeons, maître de Caumont, Jean-Philippe Tanguy, Bernard Ladevèze, on se retrouve dans un instant.
Le 12-14 Info, Sud Radio.
Mélanie Lepoutre.
2500 flashs en 24 heures pour un radar en Seine-et-Marne, 900 en Ille-et-Vilaine. Les radars chantiers débarquent sur les routes de France et ça risque de faire mal. Ces nouveaux dispositifs flashent désormais dans les deux sens. Avant de retrouver nos invités, on va accueillir Lucien. Bonjour Lucien.
Bonjour, chère Claire.
Bonjour, non, c'est Mélanie. Mais...
Ah,
Lucien, je vous en prie, vous nous appelez de Moussoulens, je prononce bien, je l'espère. Vous êtes basé dans l'Aude, cher Lucien, vous vouliez réagir au radar.
Moi, c'est pas pour. Non, pas les radars, en fait. Moi, c'est sur la vitesse et puis sur la polémique qui est faite à ce sujet. Moi, ce qui me concerne, je trouve que d'abord, les radars, effectivement, c'est une pompe à pognon, comme on dit. Maintenant, moi, il y a une chose pour laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est les soi-disant excès de vitesse. Bon, je veux bien admettre qu'il y a, au-delà d'une certaine vitesse, il faut réagir. Mais ce n'est pas la vitesse qui tue, c'est l'imbécilité des gens. C'est la, comment dirais-je, je vais être vulgaire, la connerie des gens. les gens qui ne respectent pas les dépassements, qui ne savent pas à quoi sert un clignotant, les gens qui doublent sur les lignes continues, les gens qui ne respectent pas les stops. Là, oui, il faut verbaliser, il faut être méchant.
Les mauvais comportements, les comportements dangereux.
Voilà. Mais moi, j'estime que un excès de vitesse sur une autoroute, par exemple, ça n'est pas un comportement de délinquant, comme on a l'air de vouloir le dire certaines personnes bien, soi-disant bien placées, ou enfin bref, je mets en doute leur intelligence de ce côté-là. Que l'on réduise les vitesses dans les agglomérations, je suis tout à fait d'accord. Je suis même prêt à faire descendre, à ce que la vitesse descende dans certaines agglomérations à 30 km/h au lieu de 50. Mais sur les routes à grande circulation, c'est l'autoroute, qu'on ne descende pas la vitesse, voilà, et qu'on regarde surtout, qu'on punisse uniquement, enfin, ou surtout les gens qui précisément ne respectent pas les stops, ou les feux, bon, les feux bien sûr, ceux qui doublent dans des conditions impossibles à savoir, sans visibilité.
On a bien compris, Lucien, effectivement, les comportements dangereux. Cela dit, je voudrais quand même vous rappeler que 180 km/h sur autoroute, vous devenez dangereux pour les autres qui sont à 130. Et ça, je crois qu'il faut quand même le rappeler.
Oui,
merci,
mais bon,
Lucien.
Je pense que jusqu'à 150 km/h, on peut très bien rouler sans être un mauvais conducteur ou un chauffard, comme le dit certains. Moi, je suis pas d'accord avec les termes employés. Voilà.
Merci Lucien, je vous rappelle que jusqu'à 14h, eh bien, vous faites partie des auditeurs qui repartez, voilà, avec le cahier de vacances de 40 millions d'automobilistes. J'y arrive, ça s'appelle 100 questions pour la route, c'est offert évidemment avec Sud Radio. Pierre Chasseret a fait les questions. Pierre, je vous rappelle, vous le retrouvez tous les samedis matins, 9h, midi, sur cette antenne dans Ça roule. Dernière question, parce que malheureusement le temps passe à une vitesse dans cette émission, et c'est vers vous, Jean-Philippe Tanguy, que je me tourne. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette étude d'auto plus, où 52% des radars, je vais simplifier la chose, ne servent à rien, c'est le résultat de cette étude. Hier, je cherchais les chiffres, Jean-Philippe Tanguy, figurez-vous que l'entretien d'un radar, c'est quand même plus de 12 000 euros. Au fond, avec ce chiffre que vous nous avez donné tout à l'heure, vous étiez en train de nous expliquer que quoi ? On jette l'argent par les fenêtres ?
Ah ben, on jette pas l'argent par les fenêtres dans le sens où, comment dire, le radar apporte de l'argent. Parce que le sens de l'étude, c'est de dire qu'on place les radars là où ça rapporte de l'argent et pas là où ça sert à faire de la prévention routière. C'est ça l'idée de l'étude. C'est ça qui montre. Donc le contribuable, enfin j'ai envie de dire le contribuable est racketté, mais l'État il trouve son compte. C'est bien ça le problème. C'est le sens de ce que je disais. C'est le si vous voulez, si les conducteurs ont l'impression d'être racketés, c'est pas parce qu'ils sont pour faire n'importe quoi et qu'ils sont pour qu'il y ait des morts sur la route. C'est qu'ils ont l'impression d'une part qu'effectivement ces radars, comme l'avait dit Jacques en introduction, sont placés à des endroits inutiles. Et comme l'a dit Maître de Caumont, c'est qu'après c'est le mur. C'est-à-dire que comme ce sont des machines, les gens de bonne foi qui ont l'impression d'avoir rien fait ou qui effectivement n'ont d'ailleurs rien fait sont face à un mur. C'est ça la difficulté, c'est le sentiment de raquette est lié à ça.
Alors, 52% des radars qui sont mal placés, Jean-Philippe Tanguy, je voudrais quand même vous dire que ça veut dire que ils pourraient rapporter beaucoup plus ailleurs. On n'optimise pas assez.
Bah justement, parce que l'idée de l'étude, c'est de montrer que un radar bien placé dissuade les gens d'aller trop vite. Et que donc ils ralentissent, parce que le but d'un radar, c'est pas de mettre des amendes. Le but d'un radar, c'est de dissuader les gens d'aller trop vite. On est quand même d'accord sur le but, l'objectif d'un radar. Un radar qui fonctionne, c'est un radar où il n'y a pas d'accident et où il n'y a pas d'infraction. C'est ça un radar qui fonctionne.
C'est pas un radar. Ce n'est pas forcément d'être rentable.
Voilà, le but d'un radar n'est pas d'être rentable, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Donc on est complètement à côté de la plaque quand on dit est-ce qu'un radar est rentable. Il faudrait qu'il n'ait aucun rentable. Il faudrait que si ça fonctionnait, les radars coûteraient de l'argent. Or, ils en rapportent. Donc, l'objectif est complètement oublié. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une colère populaire. Et j'insiste aussi sur le montant de l'amende. Et c'est lié au fait que, quand il n'y a pas d'appel, quand il n'y a pas de justice possible parfois, les gens soient excédés. Vous imaginez, c'est 90 euros. Il faudrait quand même qu'on s'arrête sur cette somme. Je rappelle que le SMIC, c'est 1200 euros. Bon, c'est-à-dire que si vous faites une petite erreur d'inattention, ou pire, que vous n'êtes pas responsable de l'infraction, on vous prend 10% de votre revenu.
C'est
considérable. Il faut quand même penser à toutes ces familles qui voient leur budget grevé, abîmé par ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a une colère.
Merci Jean-Philippe Tanguy, merci d'avoir été avec nous. Très bel après-midi à tous, à l'écoute de Sud Radio.